Les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites sera remis au gouvernement dans les prochains jours. On en connaît déjà les grandes lignes, on fait le point dans un instant.
Comment expliquer l'effondrement d'un pont hier en Haute-Garonne? Deux personnes sont mortes. Vous entendrez le sénateur Hervé Maurey, président de la mission d'information sur la sécurité des ponts.
Encore un geste fort de la part de Washington envers Jérusalem. Les États-Unis ne considèrent plus comme illégales les colonies de l'État hébreu en Cisjordanie occupée. Nous irons aussi à Hong Kong où des manifestants sont toujours retranchés dans un campus. Et la question du jour, Guillaume?
Bon, on va revenir sur l'état des ponts en France en compagnie de Jean-Bernard Dattry. Il est directeur à la CETEC TPI, une société d'ingénierie française.
Le besoin de financement du régime de retraite s'établira entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros en 2025. C'est à cette date que devrait entrer en vigueur le futur régime universel par points. Des chiffres établis dans le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Ce rapport sera donc remis en fin de semaine au Premier ministre, mais il a déjà largement fuité.
Oui, et le COR a fait plusieurs hypothèses pour répondre à la commande du gouvernement, équilibrer le système en 2025, avant donc de fusionner les régimes de retraite. Alors parmi ces hypothèses, il y a l'allongement de l'âge de départ à la retraite, pouvant passer par un âge pivot, comme l'avait suggéré le rapport Delevoye, avec une décote et une surcote. Dans ce scénario, il faudrait donc allonger progressivement l'âge de départ pour les générations nées entre 1959 et 1963. La cible, eh bien, c'est d'arriver à 63-64 ans pour obtenir une retraite à taux plein, contre 62 aujourd'hui. Le Conseil d'orientation des retraites a aussi planché sur un allongement de la durée de cotisation, autour de 44 ans contre 42 aujourd'hui. Alors avant même ces conclusions, la CFDT, pourtant favorable à la réforme des retraites, avait déjà exprimé son opposition à toute mesure visant à faire des économies. D'ailleurs, le gouvernement qui avait envisagé cette option dans le budget 2020 a finalement renoncé par crainte d'une bronca dans un climat social déjà explosif. Reste à savoir ce que l'exécutif va faire de ce rapport. Début octobre, le Premier ministre avait eu ces mots. Si le COR nous dit il manque 8 à 10 milliards, on devra dire il faut travailler un peu plus longtemps, mais sera-t-il aussi affirmatif à l'approche de la grande mobilisation du 5 décembre?
Anne-Laure Jumet, chef du service économie de France Culture, le gouvernement qui doit aussi calmer la colère des personnels des hôpitaux. Il réclame plus de moyens et d'effectifs. Un plan d'urgence sera dévoilé demain. Un an après la naissance des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a condamné hier soir le nihilisme de la violence de ceux qui, selon lui, ont perverti le mouvement. Le chef de l'État a aussi loué la fraternité sur les ronds-points pendant les premiers mois. Samedi, des violences ont éclaté à Paris en marge d'un rassemblement. Le préfet de police va saisir l'IGPN après la blessure d'un manifestant à l'œil qui semble touché par un projectile ressemblant à une grenade lacrymogène. Emmanuel Macron, qui s'est appuyé sur les maires pour sortir de la crise des Gilets jaunes, doit les rencontrer aujourd'hui. Il doit ouvrir cet après-midi le congrès des maires de France devant plusieurs milliers d'élus. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Deux personnes sont mortes dans l'effondrement hier du pont de Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse. Une adolescente de 15 ans dans une voiture conduite par sa mère et le chauffeur d'un poids lourd qui se trouvait aussi sur le pont. L'enquête judiciaire confiée au parquet de Toulouse devra notamment déterminer s'il dépassait la limite de 19 tonnes, rappelée à l'entrée de l'édifice qui date de 1931. Hervé Maurey, sénateur centriste et président de la mission d'information sur la sécurité des ponts, estime que cet accident est révélateur de l'état des ponts en France.
Quand on m'explique que le pont qui s'est effondré était en bon état, qu'il avait été inspecté, qu'il n'y avait aucun souci, que les travaux avaient été faits et que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'ai du mal à comprendre que si tel était le cas, le simple fait qu'un poids lourd, même d'un poids supérieur à ce qui était autorisé, soit passé et suffit à provoquer cet effondrement, parce que des ponts qui supportent des poids lourds d'un gabarit supérieur à celui prévu, il y en a tous les jours, des poids lourds qui empruntent des ponts alors qu'ils ne devraient pas le faire. Et heureusement, il n'y a pas à chaque fois un effondrement du pont. Donc je pense, mais c'est bien sûr les enquêtes qui le diront, qu'il y a peut-être eu un problème, que ce soit au niveau des travaux ou au niveau du diagnostic. Je vous rappelle qu'en 2018, il y a un mur de soutènement du pont de Gennevilliers qui s'est effondré, alors qu'il y avait une inspection qui avait indiqué que tout allait très bien. Et il s'agissait d'un pont surveillé par l'État, donc normalement mieux surveillé que les ponts qui relèvent de la responsabilité des collectivités locales.
Hervé Morey, invité du journal de 22h hier, une interview à réécouter en intégralité sur notre site franceculture.fr. Roman Polanski devrait faire l'objet de sanctions par ses pairs en France. Le conseil d'administration de la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs s'est réuni hier. Cette importante association regroupe 200 cinéastes et elle a proposé hier de nouvelles règles pour ses membres condamnés ou poursuivis pour des violences sexuelles. Règles qui devraient conduire à la suspension du réalisateur franco-polonais. Il a été accusé de viol par une photographe Valentine Monnier peu avant la sortie de son film J'accuse sur l'affaire Dreyfus. Les États-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes en Cisjordanie occupées comme contraires au droit international. L'annonce faite hier est symbolique, mais pas sans conséquences diplomatiques. Jusqu'ici, la politique américaine s'appuyait en théorie sur un avis de 1978, selon lequel l'établissement de colonies de population dans ce territoire n'était pas conforme au droit international. Une position que Donald Trump, le président, vient de faire voler en éclats. À New York, la correspondance de Loïc Loury.
Un cadeau supplémentaire des États-Unis de Donald Trump adressé à leur allié israélien, c'est ainsi sans aucun doute que cette décision sera perçue. Depuis 2018, Washington en effet a multiplié les gestes forts, le déménagement bien sûr de son ambassade à Jérusalem, la reconnaissance ensuite de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Hier, Donald Trump et son administration ont donc enfoncé le clou avec cette décision annoncée par Mike Pompeo, le secrétaire d'État.
Affirmer que ces colonies ne sont pas conformes au droit international, ça n'a pas marché. La dure vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de solution judiciaire au conflit et que les débats sur qui a raison et qui a tort au regard du droit international n'apporteront pas la paix. C'est un problème politique complexe qui peut seulement être résolu grâce à des négociations entre Israéliens et Palestiniens.
Washington ne ferait donc qu'appliquer un état de fait, Israël ne s'embarrassant pas de toute façon de l'avis de la communauté internationale. Mais cette annonce symbolique n'en complique pas moins un petit peu plus toute solution dans la région et notamment le deal du siècle promis de longue date par Donald Trump et visiblement enterré. L'été dernier, l'ambassadeur américain à Jérusalem ne disait-il pas qu'Israël avait même le droit d'annexer une partie de la Cisjordanie occupée.
Et l'autorité palestinienne a dénoncé cette nouvelle position de Washington. Le premier ministre israélien, lui, salue cette décision. Benjamin Netanyahou est encore au pouvoir. Il reste moins de 2 jours à son rival, Benny Gantz, pour réussir à former un gouvernement. Israël, qui assure ce matin avoir intercepté 4 roquettes tirées depuis la Syrie voisine. Des médias syriens évoquent de leur côté des explosions entendues près de l'aéroport de Damas. Pour la 3e journée consécutive, entre 100 et 200 manifestants hongkongais sont retranchés sur le campus de l'université polytechnique de l'ancienne colonie britannique. Certains ont fui. Les précisions sur place de notre envoyé spécial Dominique André.
Pour la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam, les étudiants qu'elle qualifie d'émeutiers n'ont pas d'autre alternative, pas d'autre option que de se rendre s'ils veulent trouver une solution pacifique. Même discours ce matin du nouveau commissaire de police. Assez, c'est assez, a dit Christang, qui estime que les violences sont proches du terrorisme. Il a lancé un appel à la population. Nous avons besoin de vous pour mettre fin à la crise, dénoncer les violences. Dans la péninsule de Kowloon, où se trouve le campus assiégé, ces déclarations ont trouvé un écho auprès de cette habitante.
On ne veut pas que notre ville soit détruite. Si vous vous battez pour la liberté, il faut le faire de façon pacifique. Ne détruisez pas la ville. N'empêchez pas les gens d'aller travailler. Maintenant, je pense qu'il faut s'asseoir côte à côte, que les deux parties discutent de la situation et que chacun explique son point de vue.
4491 personnes ont été arrêtées, révèlent les autorités de Hong Kong. Le plus jeune a 11 ans.
Dominique André. 24 soldats maliens sont morts hier dans l'est du pays, d'après l'armée malienne qui attribue cette attaque aux djihadistes. Du côté de ces derniers, 17 hommes sont morts, une centaine de suspects capturés, toujours selon l'armée. À l'occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, une journée d'information était organisée hier à Stockholm. Si ces médicaments ont permis de faire disparaître de grandes maladies épidémiques, leur utilisation massive ou pour des maladies contre lesquelles ils sont inefficaces ont un effet pervers. Les bactéries y deviennent résistantes. En Suède, Frédéric Faux.
Chaque année, en Europe, 33 000 personnes meurent à cause de bactéries résistantes aux antibiotiques, soit un impact comparable à celui du sida, de la grippe et de la tuberculose combinés. Un phénomène qui ne concerne pas tous les pays d'Europe de la même façon. Les plus touchés sont ceux où les antibiotiques sont les plus utilisés, comme la France, l'Espagne, la Grèce. Du côté des plus vertueux, où l'usage est beaucoup plus restreint, on trouve la Suède et les Pays-Baltes. Dominique Monet est en charge de ce dossier au sein du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à Stockholm.
Le pays qui prescrit le plus par habitant prescrit 3 fois plus que le pays qui prescrit le moins. Nous avons demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles les médecins en Europe ont-ils prescrit des antibiotiques alors qu'ils auraient préféré ne pas les prescrire. Et la première raison est une anxiété, une peur que la situation du patient se détériore et qu'il y ait des complications.
Mais le problème aussi est à l'hôpital. 60% des décès liés à cette résistance sont dus à des infections contractées à l'hôpital. Cette journée d'information européenne sur les antibiotiques était donc consacrée à la sensibilisation des professionnels de santé à ce sujet. Car des gestes simples seraient en effet suffisants pour prévenir ces infections, comme prescrire moins d'antibiotiques, isoler les patients infectés, mais aussi une hygiène parfaite des mains, qui n'est pas encore systématique dans tous les hôpitaux.
Frédéric Faux, depuis des chutes de neige en fin de semaine dernière sur la région Rhône-Alpes, de nombreux foyers étaient privés d'électricité. Plus de 90% ont été réalimentés. Il en restait encore hier soir 14 500 dans la Drôme, sans courant. Et prudence ce matin dans les Landes, le département est en vigilance orange en raison d'un risque de crue importante. Météo France qui prévoit aujourd'hui un temps instable dans le sud-est, plus calme partout ailleurs. Vous aurez de la pluie sur la Corse et l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures maximales seront de 7 degrés à Lille, Paris et Lyon, 11 à Brest, 10 à Bordeaux et 14 à Nice.